Protégez vos biens, vos proches et votre voisinage avec l'assurance habitation de Sunwa Assurance qui vous propose priorité santé. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. C'est l'alliée des chirurgiens au bloc opératoire, la partenaire des cardiologues lors d'examens invasifs, la complice des dentistes et un recours pour de nombreuses femmes sur le point d'accoucher. Elle, c'est l'anesthésie. Supprimer les sensations en premier lieu, la douleur pour exécuter dans de bonnes conditions un acte médical, agir sur les nerfs, le cerveau, anesthésie locale ou générale, injection ou inhalation. Parfois combiner les deux, des actes qui imposent des précautions multiples, la consultation préopératoire pour prendre connaissance de l'état du patient, s'informer d'éventuelles contre-indications avant l'intervention, rester à jeun, éviter certains médicaments pendant l'intervention, surveiller les fonctions vitales et après en salle de réveil ou en service de réanimation, récupération, rétablissement sous la surveillance bien sûr des soignants. L'anesthésie reste encore pour beaucoup une procédure redoutée, perte de conscience, effets secondaires, récits de mauvaises expériences même parfois, une procédure pourtant standardisée, encadrée par des recommandations internationales qui nécessitent un équipement adapté, un personnel formé en nombre suffisant pour réduire les inégalités encore criantes en termes d'accès aux soins. Journée mondiale de l'anesthésie, avec nous en studio, docteur Philippe Mavungu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président du comité équipement et membre du conseil d'administration de la Fédération mondiale des sociétés d'anesthésistes, la WFSA. Avec nous également en studio, professeur François Stark, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le chef du pôle anesthésie-réanimation au CHU de Bordeaux, l'anesthésie au Sénégal. Nous joindrons tout à l'heure le professeur Elisabeth Diouf, chef du service d'anesthésie-réanimation au CHU Le Dantec à Dakar. Au Rwanda, nous retrouverons le docteur Paulin Bangouti, médecin pratiquant en anesthésie et réanimation à l'hôpital Roi Faisal de Kigali, président de la Société rwandaise des anesthésistes. Vos expériences à vous, auditeurs, en matière d'anesthésie, on attend vos témoignages au 33 84 22 75 75. En fin d'émission, nous parlerons de l'épidémie d'Ebola qui sévit toujours dans l'est de la RDC, dans la province du Nord Kivu. Les autorités congolaises disent faire face à une deuxième vague à Beni. La riposte à la maladie est freinée par la violence sur place, attaques, déplacements de population, également résistance communautaire. On va en parler avec le professeur Jean-Jacques Mouyembe, directeur général de l'Institut de recherche biomédicale de Kinshasa.
Priorité santé sur RFI.
L'anesthésie et la réanimation, avant d'aborder la question cruciale de l'accès à ces spécialités médicales. On va, si vous le voulez bien, docteur Philippe Mavungu, commencer par des éléments de base. Définition, anesthésie locale, anesthésie générale. Et d'abord, première question, à quoi ça sert une anesthésie ?
Merci Caroline. Une anesthésie, ça sert à faire en sorte que des actes médicaux ou chirurgicaux qui autrement serait désagréable, douloureux pour un patient, puisse se passer dans des conditions correctes et que sa sécurité soit assurée pour que l'acte se passe bien. Elle va donc associer des médicaments qui agissent à la fois sur le système nerveux central, donc des produits qui font perdre conscience, des produits qui combattent la douleur, principalement cela, éventuellement des produits qui relâchent les muscles pour que les conditions chirurgicales puissent être correctes en cas de chirurgie intra-abdominale. On peut focaliser l'effet de ces médicaments, en utilisant des médicaments spécifiques, sur des parties du corps. C'est ce qu'on appellera donc une anesthésie loco-régionale, puisqu'elle couvre une région uniquement du corps. On peut associer aussi les deux. On utilise l'un ou l'autre, l'une ou l'autre de ces techniques pour pour faire que la sécurité du patient soit assurée et de façon adaptée à l'acte chirurgical.
Professeur François Stark, est-ce que ces anesthésies justement locales, loco-régionales, comme on vient de l'entendre, ou générales, sont prescrites pour certains types d'actes, certaines opérations, ou c'est plus compliqué ?
Non, ça dépend à la fois effectivement du type d'intervention. Certaines interventions, par exemple, sur des membres, membres inférieurs, membres supérieurs, se prêtent bien à des anesthésies loco-régionales. On peut très bien endormir un bras uniquement, endormir un pied. On a également des anesthésies dites rachidiennes qui permettent d'endormir la moitié inférieure du corps, donc que l'on utilise fréquemment, par exemple en obstétrique pour réaliser une césarienne, par exemple. Et après, malheureusement, d'autres chirurgies qui concernent le thorax, l'abdomen, nécessitent obligatoirement une anesthésie générale.
Est-ce que les deux peuvent être combinés ?
Alors, les deux peuvent être combinés et on va utiliser l'anesthésie loco-régionale en complément de l'anesthésie générale, à la fois pour diminuer les doses des produits anesthésiques au cours de l'intervention et surtout, c'est un des moyens pour prendre en charge la douleur post-opératoire.
Donc, on anticipe.
On anticipe et on peut même laisser en place un cathéter que l'on va utiliser pendant 24-48 heures après l'intervention. On utilise par exemple des péridurales. La même péridurale que l'on utilise pour l'accouchement peut être utilisée pour des chirurgies lourdes que le patient va garder après l'opération. C'est un des moyens les plus efficaces pour gérer la douleur post-opératoire.
Ça veut dire que la péridurale, on peut l'avoir en étant tout à fait conscient, mais aussi en étant inconscient et poursuivre après au moment du réveil.
Tout à fait.
Donc là, on lutte vraiment contre la douleur.
Tout à fait.
Docteur Philippe Mavungu, à quoi sert la consultation préopératoire ? On va prendre les choses dans l'ordre. Avant une opération, c'est le protocole du moins en France. On va voir un anesthésiste quelques jours avant. C'est comme ça que ça se passe. À quoi ça sert ?
Mais en France, effectivement, c'est en plus légal. Ça devrait être identique dans tous les pays du monde, cette période d'évaluation préopératoire qui permet de définir l'état du patient et de prendre en compte cet état pour pallier des risques potentiels qui peuvent exister, soit en relation avec les produits que nous allons utiliser ou avec la technique chirurgicale. Donc c'est un moment essentiel de la prise en charge anesthésique. On doit connaître le patient, préparer des médicaments adaptés à son état, les équipements qu'il faudrait pour que cette intervention se passe dans des conditions correctes. Ça implique donc aussi l'organisation logistique d'un service d'anesthésie, la prise en charge des équipements correctement, la place des ingénieurs biomédicaux pour que tout ce monde ensemble contribue à la sécurité de l'acte anesthésique.
Et justement, sur le choix du produit qui sera injecté ou le choix du produit qui sera inhalé, c'est à ce moment-là que ça se décide ?
En principe, c'est à ce moment-là que ça se décide. La décision finale est du ressort de celui qui fera l'acte anesthésique, mais la visite pré-anesthésique aura défini un certain nombre de choses. Par exemple, si un patient est allergique à un produit donné d'anesthésie, donc qu'il signale, on tiendra compte de cela pour la prise en charge anesthésique.
Alors, quand on pense justement à anesthésie, bien sûr, c'est la douleur, la première chose à laquelle qui nous vient à l'esprit. Mais certaines personnes disent, il peut y avoir, puisque c'est des produits antidouleurs, est-ce qu'il peut y avoir une forme de dépendance ? Qu'est-ce que vous leur répondez, docteur Mavungu ?
Cela ne survient pas lors de nos actes d'anesthésie. Le contexte de dépendance aux agents d'anesthésie, et j'arrive des États-Unis où c'est un problème crucial, là-bas on parle d'épidémie aux opiacés, on est loin de cela dans le contexte des pays à ressources limitée, où le problème plus crucial est la carence, le manque d'analgésiques puissants pour faire correctement les actes. Ce n'est pas dans le contexte d'une chirurgie qu'on crée une dépendance.
Alors on va justement s'intéresser aux différences Nord-Sud. Justement, professeur François Stark, vous avez eu l'occasion d'avoir des contacts directs, Madagascar, Mozambique, Burkina Faso, Mali. Qu'est-ce qui ressort de ces différentes expériences ? Quel retour entre ce qui se fait ici en France, notamment dans votre CHU, et ce que vous avez vu dans ces pays d'Afrique ?
Alors, malheureusement, les différences sont nombreuses. Comme l'a dit le docteur Mavungu, en France, l'anesthésie-réanimation est l'une, je crois que c'est la seule discipline médicale qui est réglementée. Il y a un texte de loi qui impose un certain nombre de choses, la consultation d'anesthésie, qui impose le monitorage au cours de l'intervention, le monitorage minimal, et également la surveillance après l'intervention. Ce n'est pas le cas dans les autres pays, et ce que l'on constate malheureusement, c'est d'abord, il y a un problème de pénurie en médecins anesthésistes. Dans la plupart des pays africains, il y a un problème de matériel et de maintenance de ce matériel. L'anesthésie et la réanimation demandent là des compétences techniques et du matériel technique très pointu. Et puis après, il y a le problème de l'accès aux médicaments. En France, on a la chance d'avoir accès aux derniers anesthésiques, hein, alors que dans d'autres pays, il y a encore, ce sont encore des produits qui datent, que l'on n'utilise plus, par exemple, hein, en France, ou malheureusement des problèmes d'accès, de conservation de ces médicaments.
Avec une vraie question d'inégalité, docteur Philippe Mavungu, cette étude de 2015, hein, de la Commission de la chirurgie mondiale du magazine The Lancet, célèbre revue scientifique, 5 milliards de personnes n'ont pas accès aux interventions chirurgicales ou aux anesthésies quand elles en ont besoin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le monde, des millions de personnes ne sont pas opérées faute d'anesthésie, c'est ça ?
C'est exactement cela, madame.
Et leur vie est en péril à cause de ça ?
Leur vie est en péril à cause de cela. Et cela a en plus une incidence économique très importante pour les pays. Je voudrais rapidement ici dire que... Le sous-investissement en matière de prise en charge chirurgicale et anesthésique coûte très cher au pays, alors que cela pourrait être très rentable. Une augmentation de l'ordre de 0,5% des budgets de santé à l'échelon mondial permettrait de résoudre largement ces problèmes-là. Et la WFSA s'implique énormément dans le plaidoyer pour que cela puisse se faire. Actuellement, en Afrique, on compte à peu près 0,44 pour 100 000 habitants praticiens en anesthésie tout confondu. Alors que la moyenne conseillée dans les objectifs de développement durable et de la couverture santé universelle devait être de l'ordre de 5 pour 100 000 habitants, avec une moyenne globale actuellement de l'ordre de 18 pour 100 000 habitants.
Pour que nos auditeurs aient une idée, en France, c'est combien pour 100 000 habitants ?
On est autour de ces chiffres-là,
oui,
de 18.
Professeur Stark.
Il y a environ 10 000 médecins anesthésistes. En France. Mmh. Je me souviens, j'étais au Mozambique où on a mis en place un programme de formation. Il y avait 15 médecins anesthésistes dans tout le Mozambique.
Ça se compte souvent sur le bout des doigts, tout simplement. Alors, illustration sur le terrain. Tout de suite, on va partir pour l'Afrique de l'Est, précisément pour le Rwanda. Et on vous retrouve en ligne de Kigali, docteur Paulin Bangouti, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes médecin pratiquant en anesthésie et réanimation à l'hôpital du roi Faisal. Justement, cette question sur le nombre d'anesthésistes que compte le Rwanda, docteur Bangouti.
Pour le moment, ça dépend de comment on définit le mot anesthésiste. Si le mot anesthésiste est défini par les médecins pratiquants d'anesthésie, nous sommes seulement 18 pour une population de 12 millions.
Et mais si on doit élargir... Oui, si les praticiens capables de conduire une anesthésiste, c'est par exemple un infirmier suffisamment formé.
Oui, si on compte jusqu'aux infirmiers capables de conduire l'anesthésie, nous avons 18 médecins et nous avons aussi autour de 350 infirmiers formés capables de conduire aussi l'anesthésie, mais qui ne sont pas compliqués.
Est-ce que l'anesthésie est accessible sur l'ensemble du territoire du Rwanda ou cette spécialité est centralisée à Kigali, la capitale, docteur Bangouti ?
L'anesthésie spécialisée pour les patients qui ont des complications, c'est centralisé beaucoup plus à Kigali parce que c'est là qu'il y a des médecins anesthésistes. Mais pour les cas simples qui peuvent se faire même dans les hôpitaux des districts, le Rwanda a mis en place un système tel que ceux qui donnent l'anesthésie et qui ne sont pas des médecins peuvent être déployés jusque dans les hôpitaux districts et ils peuvent faire l'anesthésie pour les actes simples comme la césarienne et d'autres sédations, mais cela n'est pas sans complications, parfois des complications qui nécessitent d'être amener jusque dans les centres spécialisés.
Et du côté de la procédure, docteur Bangouti, on parlait tout à l'heure de ce qui se passe en France, également des recommandations de l'OMS, consultation avant, surveillance après. Comment ça se passe au Rwanda ?
La consultation avant anesthésie est faite, mais pour la plupart des cas, pas comme une consultation un temps avant l'anesthésie. La plupart des patients viennent la veille pour la consultation pour une opération de demain. Cela, c'est par le fait qu'il n'y a pas assez de pratiquants de cette anesthésie. L'anesthésie de cette consultation, parce que l'anesthésie est considérée comme un acte qui accompagne la chirurgie. Donc la plupart des patients qui auront vu le chirurgien feront le nécessaire et ils verront l'anesthésiste un jour avant. C'est ça la pratique pour le moment. Mais on espère bien, quand on aura assez de pratiquants, étendre jusqu'à une consultation qui peut se faire même des semaines ou des jours avant la.
Alors justement, assez de praticiens, c'est ma dernière question, docteur Paulin Bangouti. Ça veut dire un effort particulier sur la formation. Qu'est-ce qui se passe en la matière aujourd'hui au Rwanda?
Dans la matière aujourd'hui au Rwanda, le Rwanda est en train d'investir dans la formation des anesthésistes. Nous avons eu cet appui du gouvernement qui finance la formation des anesthésistes. Donc le Rwanda, le gouvernement paye systématiquement pour 10 à 15 candidats anesthésistes qui sont des médecins, qui viennent pour l'anesthésie. Ils ont des pré-bourses pour poursuivre une formation de 4 ans d'anesthésie et après, leur emploi est garanti pour aller soutenir. Mais le problème que nous avons maintenant, c'est la formation des anesthésistes non médecins qui n'ont pas encore cet appui. Et nous sommes en train de continuer la plaidoyer pour que même les non médecins qui veulent faire l'anesthésie soient aussi soutenus. Comme ça, on aura beaucoup de gens à former jusqu'à ce que dans 2030, nous puissions atteindre les objectifs pour le développement durable.
Merci beaucoup, docteur Paulin Bangouti. Merci pour toutes ces explications.
RFI à Kigali, 91.9 FM.
Et tout à l'heure, nous aurons une autre illustration au Sénégal. Hein, mais avant de redonner la parole à nos deux invités toujours en studio avec nous, docteur Philippe Mavungu, président du comité équipement de la Fédération mondiale des sociétés d'anesthésie. C'est à vous, professeur François Stark, chef du pôle anesthésie-réanimation au CHU de Bordeaux. On retrouve tout de suite les questions. Les témoignages des auditeurs de Priorité Santé. Vous allez répondre, messieurs, à ces questions si vous le voulez bien. Et le premier auditeur que nous avons en ligne, eh bien, c'est Frédéric, qui est en ligne de République démocratique du Congo de Kinshasa. Bonjour Frédéric.
Bonjour Caroline.
On vous écoute, les médecins vous écoutent.
Oui, ma question est de savoir si certainement un nourrisson peut-il être opéré sous l'administration de l'anesthésie.
Vous avez des craintes en matière de risque que lorsque l'enfant est tout petit, c'est bien ça?
Oui, exactement. Je prends le cas de mon bébé et qui a un ganglion et qu'il faut qu'il passe à l'opération. Donc moi, je redoute, j'ai beaucoup de doutes et j'ai des peurs par rapport à cette opération.
C'est un médecin hospitalier qui vous a dit que votre bébé devait être opéré. Qui vous a dit qu'il avait besoin de cette opération?
Bon, c'est le médecin. À la naissance, il avait un ganglion qu'il faut extirper.
Et vous avez eu une consultation à l'hôpital, justement, pour montrer votre bébé? Est-ce que vous l'avez montré à un chirurgien?
Oui, jusque-là, il traîne à l'hôpital. Donc, incessamment, il pourra passer par cette opération. Et moi, j'ai des doutes par rapport à son âge. Il est inconscient, mais par rapport à l'anesthésie, qu'est-ce que ça va être?
Professeur François Stark, je pense qu'au CHU où vous exercez, il arrive très fréquemment que vous opériez des nourrissons.
Oui, oui, très fréquemment. Il y a des services de pédiatrie hein, où on opère tous les jours des enfants, même tout petits. Alors, je ne sais pas quel âge a votre enfant, hein, mais pour l'ablation d'un ganglion, hein, normalement, ça reste une chirurgie superficielle. Donc, on pratique une anesthésie très souvent par inhalation. On fait respirer un gaz hein, au nourrisson et il y a peu de risques anesthésie réalisée par un médecin anesthésiste, hein, j'entends. Hein, donc, non, soyez rassurés quant à l'anesthésie.
Frédéric, hein. Il a quel âge votre bébé?
Il a presque une année et deux mois.
Et vous pouvez nous dire, sauf si vous ne voulez pas bien sûr, où est localisé ce ganglion?
Vous dites, Madame Caroline?
Où se trouve le ganglion qu'a votre bébé depuis la naissance?
Au niveau du cou.
Au niveau du cou. Oui. Donc, oui. Professeur Stark,
vous dites... ce sont des interventions que l'on réalise très fréquemment. Très fréquemment. Et en général, il y a peu de risques. Vous savez, c'est comme les végétations hein, chez les enfants hein, qui sont pratiquées voilà, dès ce jeune âge également.
Donc, un message rassurant, Frédéric, hein, pour faire opérer votre bébé. On vous souhaite une excellente journée à Kinshasa. On va rester en République démocratique du Congo. On part pour Lubumbashi, où on vous retrouve, Gaël. Bonjour, Gaël.
Bonjour, Caroline.
On vous écoute, Gaël.
Oui, en fait, j'ai assisté à une opération d'appendicite d'un frère. Hein.
Mm-hmm.
Alors, il a eu l'anesthésie locale.
Mm-hmm.
juste quand l'opération a commencé, il a eu des douleurs. Donc, ce qui fait que, l'anesthésie n'était pas efficace ou quoi. Alors, on était obligé de lui donner une deuxième dose. Hein. Donc, à ce moment-là, c'était l'anesthésie générale.
Et vous avez quoi comme question à nous poser? On vous écoute, Gaël.
Voilà. En fait, j'ai deux questions. Hein. La première question, c'est de savoir d'abord si ce genre de problème arrive souvent, hein, ou bien si c'était un cas particulier. Hein. Et la deuxième question, c'est de savoir si, au cas où ce problème est arrivé, hein, est-ce qu'on doit continuer avec l'anesthésie locale ou bien il faut passer directement à l'anesthésie générale?
Docteur Philippe Mavungu, dont Gaël demande, est-ce que ça arrive souvent qu'en cours d'opération, on change de mode d'anesthésie? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il vaut mieux pas tout simplement aller opter directement pour le général et se passer du local? En gros, ce qu'il nous dit aussi, c'est que apparemment son frère ressentait quelque chose alors qu'il était anesthésié localement. C'est bien ça?
Oui. Alors, les anesthésies locales et loco-régionales comportent quelquefois ce qu'on appelle des échecs de l'anesthésie loco-régionale qu'on peut, dans certaines conditions, compléter. Je pense qu'il s'agissait de ça, c'était probablement une rachianesthésie, je ne m'avance pas trop. Des anesthésies, des appendicectomies complètement faites sous anesthésie locale, j'en connais plus beaucoup. Alors, les échecs, il faut avoir une politique de gestion de ces échecs. Effectivement, il ne sert probablement plus à grand chose de continuer à compléter de l'anesthésie locale si elle a été inefficace. Il faudrait passer en anesthésie générale en s'entourant des précautions nécessaires, bien sûr.
Est-ce que ça veut dire que c'est certains organismes, certaines personnes, certains individus qui réagissent spécifiquement au produit ou c'est en général par rapport à telle opération? De toute façon, quand on touche, on va dire simplement aux viscères, mieux vaut faire une anesthésie générale?
Dans cette question, vous abordez plusieurs aspects. En fait. À la fois, les médicaments qui sont disponibles dans ces pays, qui quelquefois ont subi des parcours ou sont d'origine douteuse, déjà. Et est-ce que c'était un produit efficace qui était utilisé, d'une part? Et ensuite, il y a l'acte technique lui-même. La qualité de cet acte, comment est-ce que ça a été pratiqué? Est-ce que il y a eu un échec technique? Il ne l'a pas injecté au bon endroit pour que l'anesthésie ne marche pas du tout?
Donc c'est bien là où on parle de Dr Mavungu, d'anesthésie sécurisée, produit sécurisé, geste sécurisé.
Et personnel qualifié.
Véritable compétence.
Paramédical ou médical.
Voilà Gaël pour la réponse à cette question. Je vais relayer un message assez simple hein, que nous a fait parvenir Jules qui est au Gabon à Libreville. Jules nous demande, ici beaucoup de femmes accouchent par césarienne. Est-ce qu'il est déconseillé d'allaiter après l'anesthésie? Qui veut répondre? Professeur Stark?
Je peux répondre. Il n'est pas déconseillé d'allaiter. Au contraire, hein, on recommande l'allaitement.
Aucune
bien sûr,
contre-indication.
Hein. Non, alors la majorité effectivement des césariennes se déroule sous rachianesthésie. C'est-à-dire une petite piqûre dans le bas du dos qui endort la moitié inférieure du corps.
On n'est pas inanimé.
On reste conscient.
Hein,
donc c'est ce qui est pratiqué généralement, ce que l'on pratique en France. Et on accepte même à Bordeaux les papas hein, qui viennent assister à la naissance par césarienne de l'enfant. Et il n'y a aucune contre-indication à l'allaitement. Après, l'autre technique, c'est l'anesthésie générale. Donc là, on réalise une anesthésie générale, on endort la maman. C'est toujours une technique à risque. On n'aime pas, hein, parce qu'il peut y avoir un certain nombre de complications. Quand c'est le cas, il faut attendre, bien sûr, le réveil complet de la maman, l'élimination des produits, et elle peut allaiter sans aucun problème dans les jours qui suivent la césarienne.
Dans les jours qui suivent.
Oui, même le jour même, hein, quelques heures après.
Voilà cette réponse à ce message de Jules. On va prendre un dernier auditeur, c'est Eric qui est au Togo, à Lomé. Bonjour Eric.
Oui, bonjour Caroline.
On vous écoute, les médecins vous écoutent.
Eh bien, bon, j'aimerais poser une question sur une opération césarienne. Ma question est la suivante. Est-ce qu'une forte dose d'anesthésie pourrait-il entraîner la mort chez un patient?
Surdoser un anesthésique, docteur Philippe Mavungu, qu'il s'agisse, je ne sais pas, d'une erreur médicale, c'est difficile de répondre à ce genre de questions, parce que normalement, un anesthésiste digne de ce nom sait doser ses produits.
il sait doser ses produits et tenir compte de l'état de la patiente. Là, il s'agissait d'un décès au cours d'un accouchement. C'est... Je suppose que la patiente était prise dans des conditions que je ne connais pas, mais qui pouvaient déjà être assez critiques, qui relativisaient les doses qui auraient pu être utilisées dans le contexte de cette patiente.
Eric, le cas particulier dont vous nous parlez, c'est quelqu'un, une proche à vous qui est décédée lors de son accouchement, c'est cela ?
Ouais, c'est ma tante qui est passée suite à l'opération. Et d'après les enquêtes qui ont été menées, trois femmes ont été mortes.
Dans le même établissement hospitalier, vous voulez dire, plusieurs femmes sont décédées lors de l'accouchement suite à une anesthésie ?
Ouais, justement, dans la semaine, trois femmes sont mortes par le biais de ce même anesthésiste, quoi.
Et ça a déclenché une enquête interne à l'hôpital ou c'était une enquête judiciaire ?
Non, c'est juste une enquête qui s'est passée à l'hôpital.
Donc là, docteur Mavungu, il voulait réagir ?
On ne fait pas de consultation ou on n'alimente pas les éléments d'un projet éventuel. Nous sommes prudents là-dessus. Nous ne connaissons pas le contexte de cette intervention qui était probablement réalisée en urgence. Mais ce qu'on peut rapporter, et là j'interviens encore au nom de la WFSA qui organise plusieurs cours qu'on appelle SAFE, SAFE Anesthesia for Everybody, et en particulier focalisé sur l'obstétrique, la périnatologie, et pour lesquels il y a une formation continue importante à effectuer autour du personnel d'anesthésie médicale et paramédicale dans les pays africains. Et c'est vrai que la mortalité liée à l'anesthésie ou aux soins périobstétricaux, pour lesquels les anesthésistes ont un rôle très important à jouer, cette mortalité reste très importante dans des pays. On arrive à un décès sur 300 accouchements, ce qui est énorme. Ce qui est énorme, voire des chiffres que je n'oserais pas avancer ici, dans certains pays qui sont...
Ça veut dire que les césariennes, dans certains cas, ne sont vraiment pas sécurisées.
Parce que quand elles sont faites, en urgence, le contexte social de nos pays... Avec un état ce qui justifie la césarienne elle-même, mais qui apporte une parturiente déjà dans un état très fragilisé. Dans ces contextes-là, nos produits peuvent avoir un effet relativement plus toxique qu'elle n'aurait autrement, et y compris la technicité. Par exemple, mettre une sonde d'intubation chez une femme en fin de grossesse, ça peut être très très difficile. Et nous n'avons pas forcément les équipements qui sont adaptés pour ce genre de situation.
Voilà Eric pour cette réponse à cette question très complexe, hein, comme on l'a souligné. Très bonne journée à vous à Lomé au Togo.
RFI à Dakar, 92 FM.
Professeur François Stark, est-ce que plus l'anesthésie dure longtemps, plus l'opération dure longtemps, plus le risque est conséquent ?
Alors, vous savez, l'anesthésie... Donc, est une intervention à risque. Les risques liés à l'anesthésie se voient surtout à l'induction de l'anesthésie et au réveil. C'est un petit peu comme en aviation, hein,
le décollage et
l'atterrissage. Au cours de l'intervention, il va y avoir surtout des complications chirurgicales, éventuellement. Donc, saignement, hein, et autres. Donc, on est très, très, très vigilant à la phase d'induction de l'anesthésie. On l'a dit, on va suivre les patients au réveil. Et après, voilà, la chirurgie va durer plus ou moins longtemps. On est là pour assurer le contrôle des paramètres vitaux du patient, hein, pendant toute l'intervention, hein, et on essaie de maintenir cette homéostasie. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des complications chirurgicales, hein, pendant telle ou telle intervention. Donc, c'est pas tant lié à la durée de l'intervention.
Ce sont les phases initiales et terminales.
Voilà.
Alors, avant de poursuivre cet échange, on va prendre une autre illustration en partant pour le Sénégal, où on retrouve à Dakar le professeur Elisabeth Diouf. Bonjour, professeur.
Oui, bonjour, madame.
Vous êtes chef du service anesthésie-réanimation au CHU Le Dantec. Est-ce qu'aujourd'hui, l'anesthésie est une spécialité qui attire la jeune génération des médecins, professeur Diouf ?
Bon, je dirais que je pense que l'anesthésie attire beaucoup les jeunes. Il y a des jeunes médecins qui veulent bien faire la spécialité. Mais on n'en voit pas beaucoup, mais je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Peut-être que c'est une spécialité qui est très effrayante, parce que pendant la formation, il y a les gardes, il faut une présence constante et tout. Mais comme les autres spécialités qui se font au Sénégal, je pense aussi à le coût de la formation.
Aujourd'hui, quand on a une équipe d'anesthésie, professeur Elisabeth Diouf, de qui est composée cette équipe? Qui sont les praticiens qui travaillent ensemble? Tout à l'heure, avec l'exemple du Rwanda, on a parlé justement des spécialistes anesthésistes qui étaient en petit nombre. Par contre, un important, quand même relativement important contingent d'infirmiers anesthésistes. Est-ce que c'est la même chose pour le Sénégal?
Bon, effectivement, ici, on a des médecins anesthésistes réanimateurs. Et on a les techniciens en anesthésie réanimation qui sont formés ici. Il faut reconnaître qu'il y a des disparités quand même en fonction des hôpitaux. Dans les hôpitaux de la capitale, tous les hôpitaux ont des médecins anesthésie réanimateurs et ils travaillent ensemble avec les techniciens en anesthésie réanimation. Mais dans les hôpitaux périphériques, il y a des hôpitaux qui ont peut-être, par exemple, un seul médecin anesthésie réanimateur et des techniciens en anesthésie. Et il arrive que les techniciens en anesthésie travaillent seuls dans le bloc opératoire.
Est-ce que pour vous, aujourd'hui, justement, professeur Elisabeth Diouf, ce manque de personnel, ce manque de moyens, tout simplement, c'est le principal obstacle dans votre pratique?
Non, je ne dirais pas que c'est le principal obstacle. C'est un des problèmes. Parce que je pense que le docteur Mavou a dû le dire, dans la sécurité en anesthésie, c'est une chaîne. Il y a les ressources humaines, bien sûr, mais il y a également les équipements qui doivent être adaptés. Et il y a le matériel consommable, il y a les médicaments. Et c'est vrai que le personnel en anesthésie joue un rôle important dans la sécurité en anesthésie.
Tout à l'heure, on relayait cette étude du Lancet qui disait que des millions de personnes sur la planète n'étaient pas opérées, justement parce qu'il manquait de moyens. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire, professeur Diouf, qu'au Sénégal, eh bien, il arrive que des personnes ne soient pas opérées parce qu'il n'y a pas d'anesthésiste ou qu'il n'y a pas de matériel pour les opérer, tout simplement?
Bon, je disais tantôt qu'il y a des disparités, mais il faut aussi reconnaître que beaucoup de progrès quand même ont été faits ces dernières années en matière d'anesthésie. Peut-être qu'il peut arriver qu'un patient ne puisse pas être opéré parce qu'il y a beaucoup de malades qui attendent et tout, mais dans toutes les régions du Sénégal, il y a des hôpitaux avec des blocs opératoires, des médecins anesthésistes réanimateurs et dans presque tous les centres de santé où il y a une activité chirurgicale, il y a des techniciens en anesthésie.
Et au niveau, c'est ma dernière question, du ressenti et de l'information des patients. Est-ce que vous avez l'impression que les gens sont en confiance avant l'anesthésie, professeur Diouf? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils connaissent bien cette spécialité?
Bon, pour ce qui nous concerne, parce que bon, l'anesthésie aussi, c'est la préparation à l'intervention. Donc, on a incité, en tout cas, la consultation d'anesthésie. En tout cas, ici, c'est généralisé, même si c'est le technicien en anesthésie, qui informe le patient. Bon, peut-être que l'information n'est pas aussi détaillée que dans les pays européens où le patient doit donner son consentement éclairé et tout, mais ils sont informés.
Information.
Il y a quand même des appréhensions, des appréhensions parce que, bon, peut-être qu'il y a des explications qui ne sont pas toujours données de façon claire, mais quand même, on prend le temps à la consultation d'anesthésie de les informer sur l'anesthésie et sur les risques liés à l'anesthésie.
Merci beaucoup, professeur Elisabeth Diouf, chef du service anesthésie-réanimation au CHU Le Dantec à Dakar. On aborde la dernière partie de cet échange et on a bien compris, docteur Philippe Mavungu, à travers notamment tout à l'heure les témoignages des auditeurs de Priorité Santé, une anesthésie sécurisée, c'est pas simplement quelque chose qui accompagne, ça fait vraiment partie, c'est une condition indispensable pour une opération sécurisée.
Exactement, madame. Alors, il faut dire que le problème va être pris à bras-le-corps par les différents pays et les institutions internationales. Je vous signale la résolution de l'OMS lors de l'Assemblée mondiale de la santé, la résolution 68-15, qui insiste sur le renforcement des soins chirurgicaux et anesthésiques essentiels et des urgences en tant que composante de la couverture sanitaire universelle. C'est quelque chose qui fait partie donc des objectifs santé à l'horizon 2030. Et pour que cela se fasse, il faudrait qu'un certain nombre de conditions soient rapidement résolues. Il y a des choses, le temps est court, je vais peut-être aller directement dessus, par exemple. Le manque d'oxygène dans certains, dans des structures de santé, y compris de niveau 3.
Non, c'est ce qu'on dit, la mise à disposition, ce qu'on appelle les consommables, hein, tout ce qui rentre dans le cours de cette anesthésie. Il faut des produits, oui. Il faut des tubes, il faut des machines. Et quand la machine tombe en panne, il faut aussi quelqu'un pour la réparer.
Oui, bien sûr. Et alors, la pénurie en techniciens et le système d'approvisionnement de ces pays est souvent complètement organisé. Mais le problème de l'oxygène, madame, il est crucial.
Crucial.
Il pourrait être résolu très simplement. Je vais faire plaisir peut-être aux auditeurs en disant qu'une Toyota Land Cruiser, c'est une centrale d'oxygène qui sauvera des plusieurs centaines de vies. Et c'est inacceptable de voir que dans certains hôpitaux, régulièrement, en Afrique, on apprend qu'il y a des décès parce qu'il y avait pénurie d'oxygène pendant des semaines. Or, une Toyota Land Cruiser, ça fait une centrale d'oxygène pour plusieurs années. Une centrale très moderne. Il existe des centrales moins chères que celle-là.
Mais quand vous dites ça, on sent une certaine exaspération très compréhensible dans votre voix. C'est un appel à qui ? Ça s'adresse à qui ? Au gouvernement, au ministère de la Santé, aux bailleurs de fonds ? À qui ? Qui peut justement dégager des moyens pour que diminuent ces inégalités, notamment médicales, mais particulièrement pour l'anesthésie ?
Alors, nous faisons un plaidoyer qui est général, qui s'adresse bien sûr aux gouvernants, en premier lieu, mais qui s'adresse à tout généreux donateur. Et je vous ai donné une échelle de prix, par exemple, pour ce produit-là, qui est tout à fait accessible. La WFSA, de son côté, fait des efforts de fourniture, et mon comité, entre autres, définit les équipements minimums nécessaires pour faire une anesthésie sécurisée dans les hôpitaux de premier niveau. Et le coût de cet équipement dépasse difficilement 2000 euros, 3000 euros, on va dire. C'est un appel que je lance donc aussi bien aux gouvernants. Les échelles de prix sont difficiles à comprendre qu'elles ne soient pas respectées. Et des généreux donateurs, au sein de la WFSA, je travaille aussi bien avec des institutions du monde anglophone ou anglo-saxon qui semblent être plus généreuses que le monde francophone.
Est-ce que vous avez l'impression, Dr Mavungu, qu'aujourd'hui on concentre à la limite plus les efforts justement en matière de générosité médicale sur les médicaments, sur certaines maladies en particulier, et pas sur certains actes médicaux qui sont pourtant indispensables, la chirurgie, l'anesthésie, la réanimation?
Alors, dans une déclaration que j'ai faite récemment à l'occasion du comité régional de l'OMS à l'Afrique, j'insistais pour que on arrête cette négligence des patients chirurgicaux. Les patients chirurgicaux, là je fais un plaidoyer à la fois pour la chirurgie et l'anesthésie qui va avec. Effectivement, alors, les décès liés aux mauvaises conditions chirurgicales et anesthésiques, tout ça mis ensemble, font 4 fois plus de morts que quand on regroupe sida, tuberculose,
les
malaria réunies.
Oui, oui. Et parasitaires.
Oui, en plus que ces maladies conduisent aussi à la chirurgie. Bon, on ne fait pas un plaidoyer pour le plus malheureux dans la situation.
Non, il n'y a pas question de choisir, mais c'est bien de montrer, de pointer qu'il y a aussi un véritable fardeau des carences en matière de prise en charge chirurgicale. Justement, peut-être que ça peut paraître assez anecdotique, mais c'est quand même intéressant de le souligner. Il y a des méthodes d'anesthésie qui peuvent ne pas coûter énormément, ne pas mettre en avant de nombreux produits, on pense à l'hypnose. Ça se fait aujourd'hui dans des hôpitaux très sérieux en France, hein, comme le vôtre, professeur François Starr. Qu'est-ce que ça peut apporter comme avantage, justement, de passer par des anesthésies alternatives, mais néanmoins sérieuses?
Alors, on ne peut pas tout faire sous hypnose. L'hypnose, c'est un outil complémentaire, je dirais, que l'on va associer à des techniques d'anesthésie. On peut faire des interventions sous hypnose, notamment des interventions où on va combiner anesthésie locale et une sédation assurée par l'hypnose. Voyez, donc ça permet d'éviter dans un certain nombre de cas l'utilisation effectivement d'anesthésie générale.
Vous le faites à Bordeaux dans votre CHU pour quel type d'intervention?
On le fait pour plusieurs types d'interventions, de la chirurgie gynécologique mineure, on fait même des thyroïdes aujourd'hui sous hypnose, toute chirurgie superficielle, des ponctions, biopsies.
Est-ce que ça commence un petit peu à émerger aussi sur le continent africain ou pas encore?
Très peu, j'ai l'impression. J'ai très peu d'expérience. Il y a une demande forte récemment à Madagascar. On voit apparaître ce type de demande. Il faut savoir que l'hypnose peut être utilisée en dehors du bloc opératoire, aux urgences également, pour la réalisation d'un certain nombre de gestes, des réductions de luxation, et puis également pour la prise en charge de la douleur après l'intervention, ou chez certains patients douloureux chroniques. Donc, c'est une technique à développer qui coûte très peu cher, qui n'utilise pas de médicaments, pas de moyens techniques, qui nécessite des ressources humaines, par contre, et une formation spécifique de ces personnels de santé.
Ce sera le mot de la fin, docteur Philippe Mavungu. On a bien compris, hein, les standards existent, il y a des protocoles, il y a des manières de faire, ces fameuses consultations avant, bien surveiller le patient après. Malgré tout, à quoi ça sert, on peut demander à l'OMS, ce fameux protocole, quand derrière, les moyens ne suivent pas?
Effectivement, il faudrait définir ces moyens et faire un plaidoyer puissant pour que, et nous vous remercions, nous remercions RFI de nous avoir permis aujourd'hui de pouvoir faire ce plaidoyer que j'espère aura porté sur un large public, y compris de décideurs.
Est-ce que vous avez l'impression que les chirurgiens et les anesthésistes avancent main dans la main pour cette cause?
A priori, oui. Et la WFSA est un partenariat fort avec différentes institutions sœurs, Global For Alliance, par exemple, qui est une association qui préconise la sécurité en anesthésie, en obstétrique et dans les quatre, la traumatologie, etc. Et puis, il faudrait peut-être dire un mot ici de l'IFNA, qui est la Fédération Internationale des Infirmières Anesthésistes, qui portent le fardeau, hein, largement.
On l'a entendu au niveau des chiffres, voilà, en Afrique.
En sachant que, idéalement, ils devaient être supervisés par des médecins anesthésistes et ces problèmes de supervision sont difficiles à organiser. Et j'aborde là le futur, peut-être, avec tout ce que la télémédecine pourra apporter. Et j'ai constaté que l'OMS Afrique prend un engagement pour que cette télémédecine puisse être développée. Je pense que l'évaluation préopératoire et autre chose, dans la prise en charge périopératoire en Afrique, pourrait peut-être bénéficier de ces technologies-là aussi.
Et ça pourrait faire l'objet d'une autre émission, tout
nous
à fait.
Tout à fait prêts.
Merci à vous deux d'avoir participé à Priorité Santé, docteur Philippe Mavungu, président du comité équipement et membre du conseil d'administration de la Fédération mondiale des sociétés d'anesthésistes, et à vous, professeur François Stark, chef du pôle anesthésie réanimation au CHU de Bordeaux.
Priorité Santé sur RFI.
Une deuxième vague de l'épidémie de maladie à virus Ebola dans le Nord Kivu, dans l'Est de la RDC. C'est le ministre congolais de la Santé qui désigne désormais la ville de Beni comme épicentre de l'épidémie. Plus de 200 cas au total. Deuxième vague favorisée par une série de facteurs dans cette région en proie aux violences. On l'évoque tout de suite avec vous, professeur Jean-Jacques Mouyembe. Bonjour.
Bonjour madame.
Merci beaucoup d'être en ligne de Kinshasa avec Priorité Santé. Vous êtes directeur général de l'Institut National de Recherche Biomédicale et vous êtes, on peut le rappeler aussi, professeur Mouyembe, l'un des tout premiers médecins à avoir isolé le virus Ebola. Professeur Mouyembe, deuxième vague donc à Beni, région où le conflit armé complique terriblement la prise en charge des patients, compte tenu notamment des déplacements de population. Quelles indications vous avez en termes de chiffres et en termes aussi justement de prise en charge de ces malades d'Ebola?
Bon, écoutez, nous sommes maintenant à notre 10e épidémie de maladie à virus Ebola. Donc, en principe, nous avons développé une grande expérience et pour prendre en charge, n'est-ce pas, cette maladie. Mais cette fois-ci, nous sommes un peu dépassés parce que l'épidémie survient dans une zone, n'est-ce pas, de conflit presque permanent. Et alors, on a beaucoup de problèmes, n'est-ce pas, pour le suivi des contacts et même pour la prise en charge complète, n'est-ce pas, des malades qui sont hospitalisés. Comme vous avez dit, jusqu'à présent, nous sommes déjà à 214 cas de maladie à virus Ebola confirmés et probables. Et pour le moment, l'épicentre, c'est la ville de Beni, où survient, n'est-ce pas, la plupart des nouveaux cas que nous observons maintenant dans cette zone.
Alors, il y a les violences, il y a des personnes déplacées. Est-ce que vous constatez encore sur le terrain, professeur Mouyembe, les équipes qui sont déployées sur place constatent une certaine résistance communautaire, des villageois qui ne veulent pas aller au centre de traitement, voire même qui cachent des malades?
Oui, oui, c'est un peu la particularité de cette épidémie. Dans la plupart des épidémies que nous avons eues, il y avait une collaboration très forte entre les communautés, n'est-ce pas, et les équipes chargées de la lutte.
C'est ce qu'on a vu en particulier lors de l'épidémie de Mbandaka qui a pu être arrêtée en quelques semaines. Là, ça traîne, oui. Notamment parce qu'il y a cette résistance communautaire.
Oui, oui, exactement, parce que en fait, la maladie à virus Ebola, c'est une maladie vraiment socio-culturelle, et il faut absolument que la population adhère, n'est-ce pas, aux mesures de lutte. S'il y a une résistance, en principe, cela veut dire que la population ne comprend pas l'importance de ces mesures et essaye, n'est-ce pas, d'éviter, et cela va donc faire que l'épidémie va traîner dans le temps et, n'est-ce pas, et dans l'espace. C'est là ce que nous rencontrons, n'est-ce pas, sur le terrain ici à Béni.
On comprend bien la qualité de la réponse sanitaire. Il y a donc un enjeu de communication, d'information, de prévention. Qu'est-ce qu'on peut améliorer justement, professeur Mouyembe, pour que la population adhère, rejoignent les centres de traitement et ainsi coupent cette boucle de la contamination?
Bon, je pense que la première chose, c'est vraiment le dialogue. Hein. Il faut favoriser le dialogue avec la population, c'est-à-dire il faut passer par les leaders d'opinion qui sont les pasteurs, qui sont les enseignants, qui sont les hommes politiques. Donc arriver à avoir vraiment un dialogue avec la population et mettre en place donc ce que la population estime être bon et ce que les mesures de santé publique estiment être aussi praticables. Et donc il faut absolument entrer dans la population, donc passer le message, utiliser la radio, utiliser tous les moyens de communication possibles et imaginables qu'on peut avoir, n'est-ce pas, dans la ville.
Il nous reste une minute, professeur Jean-Jacques Mouyembe. Justement, des auditeurs vous écoutent à Béni. Qu'est-ce que vous voulez leur dire, justement, pour aller dans le sens de cette prévention, pour essayer, justement, de limiter l'épidémie?
Bon, c'est dire que, voilà, ce n'est pas une fatalité, Ebola, ce n'est pas une fatalité. Nous l'avons maîtrisé dans d'autres régions du pays et c'est à la population de suivre ce que le ministère de la Santé propose et de travailler avec le ministère de la Santé, la main dans la main. Ce n'est que dans cette confiance mutuelle que nous pouvons arriver, n'est-ce pas, à maîtriser rapidement cette épidémie.
Merci infiniment, professeur Mouyembe. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Institut national de recherche biomédicale à Kinshasa.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. C'est Toussamaki, Ophélie Lassène, Victor Hull. Demain, dans Priorité Santé, on va revenir sur le débat actuel en France des balliers à l'homéopathie. Évaluation en question, des remboursements possibles. Si vous avez une question, notre numéro de téléphone 33 1 84 22 75 75. On se retrouve demain.
C'était Priorité Santé avec Sunwa Assurance qui vous propose l'assurance habitation pour protéger vos biens, vos proches et votre voisinage. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.